De retour sur BFM TV. Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit et demi, exceptionnellement, puisque l'on attend la prise de parole de Donald Trump qui va s'exprimer tout à l'heure sur Fox News. Après donc cet appel très attendu, très redouté aussi par Kiev, 2 heures de conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui. Pour quel résultat? Une trêve de 30 jours, oui. Oui, mais partiel, uniquement concernant les infrastructures énergétiques. Et d'ailleurs, on le verra dans un instant, on sera en direct de Kiev. Ce soir, il y a une pluie d'explosions sur la capitale ukrainienne avec une attaque de drones d'attaque. On verra ça dans un instant avec notre envoyé spécial. Donc, vous l'avez compris, on est loin d'un cessez-le-feu total. Vladimir Poutine a posé ses conditions, on y reviendra dans un instant. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne la direction de Washington où l'on vous retrouve, Antoine Hollard. Bonsoir, Antoine. Que dit-on du côté de la Maison-Blanche? Est-ce que l'on est satisfait de cette conversation?
Écoutez, il y a Donald Trump qui a posté un message tout à l'heure sur son réseau social. Il a l'air plutôt satisfait, effectivement. Trump explique qu'il a eu une discussion productive avec Vladimir Poutine. Grosso modo, il explique que c'est la première fois depuis 2022 et le début de la guerre que Vladimir Poutine accepte de lâcher du lest. Donc c'est surtout ça qu'on veut retenir du côté de la Maison-Blanche. Donald Trump dit qu'il y a désormais un processus qui est engagé et qui va conduire, il l'espère, vers la paix. Reste que du côté des télévisions américaines, du côté des commentateurs, on est plutôt critique ce soir. On explique que Vladimir Poutine a dit non à Donald Trump. On rappelle qu'au départ, Trump espérait convaincre Poutine d'accepter un cessez-le-feu total. Or, vous l'avez dit, on n'y est pas du tout. Le cessez-le-feu est très limité. Les deux hommes se sont simplement accordés à de nouvelles négociations qui vont commencer pour élargir progressivement le cessez-le-feu. D'abord, un cessez-le-feu maritime sur la mer Noire et puis ensuite, un cessez-le-feu à l'ensemble du territoire ukrainien. Sauf que Poutine a posé des conditions, notamment l'arrêt de tout soutien militaire à l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que ni la Maison-Blanche ni Donald Trump n'ont évoqué ces conditions posées par Vladimir Poutine. Donc on verra ce que Donald Trump a à en dire. Il sera sur Fox News ce soir. On verra aussi ce qu'il répond aux critiques qu'on entend ici aux États-Unis. Pas sûr néanmoins que l'interview le mette vraiment en difficulté parce qu'il sera, on l'a dit, sur Fox News, chaîne très conservatrice qui lui est généralement très favorable.
Merci beaucoup Antoine Hollard, mais on en saura peut-être plus sur les détails de cette conversation parce que c'est précisément ce qu'il nous manque ce soir. Il y a quand même un certain nombre de sujets qui n'ont pas été évoqués publiquement et qui ont probablement été évoqués lors de cet échange. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Jean-Paul Paloméros, votre regard sur cet échange, sur cette annonce de trêve partielle sur les infrastructures, est-ce que ça marque réellement ce soir une étape importante, une avancée où il faut rester extrêmement méfiant parce qu'on ne sait pas précisément ce qui s'est négocié en coulisses?
Disons qu'on souffle un peu parce qu'on s'attendait au pire. Le pire n'est jamais certain, mais on aurait pu avoir un Trump qui lâche plus encore l'Ukraine que c'est le cas. Autrement, la trêve, elle est artificielle, tout le monde l'a compris, puisque les infrastructures énergétiques, certes, il les a déjà beaucoup bombardées, M. Poutine, donc le travail est fait, en tout cas en partie, mais il y a tellement d'autres cibles à atteindre, et en particulier sur le front. Donc il n'y a rien pour, à ce stade, sur le front, pour le front. Donc c'est un demi-succès, disons que c'est un petit pas dans la bonne direction.
Un demi-succès pour Donald Trump ?
Mais alors, c'est très intéressant parce que Poutine, il défend ses positions. Il n'y a aucune surprise. Ça revient à la démilitarisation de l'Ukraine, ça revient... Il faut que et c'est son axe des forces, que les Occidentaux arrêtent d'alimenter l'Ukraine, c'est tout. Il veut les asphyxier. Mais du côté de Trump, on dévoile vraiment, c'est un petit peu ce que je pensais, des objectifs stratégiques. Et ça, c'est très intéressant dans cette négociation. Ils en ont parlé et il n'y a que comme ça que Trump pourra tordre un peu le bras à Poutine. Par exemple, la limitation des armements stratégiques, très intéressant, et le lien direct avec l'Iran et la sécurité d'Israël, en disant l'Iran, déclaration commune semble-t-il, l'Iran ne doit pas acquérir les moyens de détruire Israël. Ça veut dire non à la bombe nucléaire en Iran. Pour moi, c'est peut-être le plus grand outcome, si je puis dire, plus grand perspective en tout cas de ce qui a été fait ce soir, tel que je le comprends.
Mais alors justement, vous parlez d'un demi-succès. On se posait la question, Ulysse, avant ce coup de fil, de quel côté pencherait la balance? Qui a obtenu le plus ce soir? C'est Donald Trump ou c'est Vladimir Poutine?
Alors, deux choses. Moi, je dirais que l'étau se resserre sur l'Ukraine. Quand on voit les conditions posées par Vladimir Poutine, et d'autre part, la pression de Poutine sur Trump est énorme, parce que lui, il a énuméré tout ce dont il ne veut pas. Trump s'est contenté de dire on va dans la bonne direction et on va avoir un premier cessez-le-feu, même si c'était un mini cessez-le-feu, et qui sera très difficile à contrôler. Alors que Poutine, lui, il dit clairement il faut arrêter toute l'aide occidentale à l'Ukraine, donc ça nous inclut les Européens aussi, c'est pas simplement les Américains, ça veut dire les armes, mais aussi le renseignement. Il dit il faut arrêter la mobilisation forcée, entre guillemets, en Ukraine. Bref, il est extrêmement arrogant et demandeur. Donc Trump, ce soir, on l'attend avec impatience, parce que qu'est-ce qu'il va répondre à ces conditions posées. Alors, on sait que sur l'OTAN, il a déjà plié une croix sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, même si les Ukrainiens continuent à le demander. Mais pour le reste, si vous voulez, alors il y a plein de choses que l'on ne sait pas, hein, parce que 2h30 de conversation, c'est considérable entre deux chefs d'État. Il y a donc certainement des détails secrets qui seront pour la suite de la négociation. L'aspect positif quand même, si on ne veut pas être complètement négatif, c'est que effectivement, il y a quand même un début d'un cessez-le-feu, c'est une bonne nouvelle, à condition qu'on ne torde pas complètement le cou des Ukrainiens et qu'après ce premier cessez-le-feu, il y en ait un autre qui soit plus important et qu'on aille vraiment vers un véritable cessez-le-feu.
Précisément, Claude Blanche-Maison, pourquoi ce cessez-le-feu sur la production énergétique? Je me pose cette question parce que quand on repense aux déclarations de Donald Trump de dimanche soir, avant ce fameux coup de fil, il disait, voilà, il sera question de partage de certains avoirs, dont des terres, des usines de production d'énergie. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'arrêt des frappes sur les sites énergétiques?
À mon avis, pas vraiment. Je pense que Donald Trump a rencontré un Poutine beaucoup plus coriace qu'il ne l'imaginait et qui n'a pas du tout été emballé par l'enthousiasme de Donald Trump. Et du coup, on en est revenu à quelque chose qui avait déjà été discuté au mois de juin dernier entre les Ukrainiens et les Russes directement. Poutine n'existait pas à l'époque, qui était précisément ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, parce que les Russes en avaient assez qu'on leur détruise leurs raffineries et les réserves d'essence pour les avions de combat, et parce que effectivement les Ukrainiens avaient peur de grelotter l'hiver. Mais dans le fond, ce résultat, ce cessez-le-feu limité, est moins intéressant aujourd'hui pour les Ukrainiens que pour les Russes, parce que on a interconnecté le réseau ukrainien avec le réseau européen. Okay. Et que les Ukrainiens ont su se protéger avec beaucoup, beaucoup de générateurs. Et que donc, on n'a pas entendu dire que les Ukrainiens grelottaient cet hiver. Ils sont débrouillés mieux que l'hiver dernier. Ouais. Alors que les Ukrainiens vont être empêchés de continuer de détruire des réserves d'essence et de carburant sur des aéroports d'où partent les avions pour les bombarder ou pour envoyer des missiles qui les bombardent. Donc, il se peut que ça ne soit pas si intéressant que ça pour l'Ukraine. À cette époque, aujourd'hui.
Donc alors, les Russes ont dilé à moindre coût cette première étape comme un geste affiché.
Alors effectivement, mais ce qui est un acquis quand même, c'est en effet qu'il y a une structure qui se met en place, une structure permanente probablement avec des personnalités différentes, qui est une structure bilatérale de négociation permanente entre les États-Unis et la Russie. Alors sur les affaires stratégiques, comme l'a dit le général, c'est probablement ce qui est le plus important en effet pour l'avenir, mais aussi sur les questions tout à fait techniques et ponctuelles de ce qui doit se passer en Ukraine. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sujets qui ont été laissés de côté pour cette structure bilatérale de négociation. Par exemple, la mer Noire, en effet. La mer Noire, je ne vois pas comment les Russes et les Américains peuvent discuter tout seuls de la mer Noire, à partir du moment où Erdogan tient la clé des détroits. Ils vont être obligés de l'inviter. Et ça va être comme ça pour un certain nombre de sujets techniques.
Ça, ce sera les prochaines étapes des discussions.
Et Zelensky va évidemment finir par demander à y aller, parce qu'il est le premier concerné quand même. D'ailleurs, il ne sait pas comment appliquer le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, parce qu'il n'était pas dans la négociation.
Mm-hmm. Avec des conditions qui sont mises justement par Vladimir Poutine pour ces prochaines étapes. Ilyss le disait il y a un instant, l'arrêt de l'aide militaire occidentale. On va y revenir avec vous, Jean-Paul Palomeros. Mais juste avant, Elsa, côté russe, il y a un des négociateurs russes qui a réagi et qui a donné plus de précisions sur cet appel ce soir.
Oui, absolument. Vous savez, c'est cet homme dont on a parlé il y a une dizaine de jours, Kirill Dmitriev, qui est responsable des négociations et notamment dans leur volet économique qui avance très très vite en ce moment. Et donc, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, et c'est une politiste très renommée, Yekaterina Shulman, qui en a rappelé l'existence ce soir, il a dit deux choses écrites en lettres capitales. Il a écrit que ça avait été un perfect call, un appel parfait en lettres capitales. Et deuxième chose, que sous le leadership du président Poutine et du président Trump, le monde n'a jamais été un endroit aussi sûr que maintenant. Voilà, donc vous savez au profit de qui fonctionne ce Premier accord.
Est-ce que Donald Trump pourra aller jusqu'à suspendre l'aide militaire occidentale comme c'est réclamé par Vladimir Poutine, comme il l'a fait pendant quelques jours? Est-ce qu'il a un autre choix que de l'accepter s'il veut obtenir cette fameuse trêve?
Oui, il a un autre choix que d'accepter, effectivement, de laisser l'Ukraine à son propre sort, puisque c'est ça dont il s'agit. Et c'est la grande question qui reste en suspens ce soir. Est-ce que Donald Trump est allé jusque-là ou non? Est-ce qu'il va en parler ou non? Est-ce que c'est ça qui est caché derrière? Parce que quand on obtient des avancées dans un domaine, et en particulier stratégique, c'est pour ça que je parlais des domaines stratégiques, on va se dessiner un vrai dessin, là. On ne peut pas dire que Donald Trump manque de stratégie. Simplement, il a une stratégie qui n'est pas la même que celle des Européens. Donc, on va voir si il a dealé, en quelque sorte, cette affaire, même si il ne le présente pas tout de suite. C'est une option qui est ouverte. Mmh. Souhaitons que ça ne soit pas le cas. Et donc, de toute façon, pour les Européens, le cap ne doit pas changer. Et les Européens, au sens large du terme, avec la Grande-Bretagne, il ne faut pas que le cap change.
Il y a ce soir quand même un point extrêmement intéressant. Excusez-moi, Gérard, si vous avez...
Non, je vous en prie. Ouais.
Non, c'est ce que dit Zelensky quand il dit, et on sent là son inquiétude, je demande à voir Donald Trump, je demande les détails de cette négociation, je veux savoir ce qui s'est vraiment négocié entre Poutine et lui. Mm-hmm. Et ça traduit l'inquiétude des Ukrainiens, et d'ailleurs le fait qu'il y a ce qu'on sait... qui a été annoncé, et puis il y a tout le reste.
Il y a tout le reste, effectivement, on ne sait pas rien sur le sort réservé à l'Ukraine, quid des garanties de sécurité, quid des concessions territoriales, tout ça, ça n'a pas été communiqué publiquement.
La bonne nouvelle, c'est que, comme vous l'avez dit parfaitement, les négociations vont continuer, enfin, parce que c'est comme ça qu'on va avancer, c'est des vrais groupes de négociateurs qui avancent pas à pas. Ce n'est pas possible que deux présidents négocient à ce niveau-là, ou alors ils vont faire des tas de bêtises, si vous voulez. Ça se gagne, une négociation. Ça va être horriblement difficile, c'est pas gagné d'avance, mais encore faut-il que les Ukrainiens et, si possible, les Européens soient invités. Les Ukrainiens, sans doute, les Européens, sans doute, non.
Réaction d'ailleurs, on l'entendra d'ailleurs tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui était en Allemagne ce soir, et qui a réagi en disant que l'Europe continuerait de soutenir l'Ukraine face à cette condition qui est imposée par Vladimir Poutine. On va prendre justement la direction de Kiev. Igor, trêve partielle uniquement sur les infrastructures énergétiques, mais pour le reste, il n'y a pas de cessez-le-feu, et ça se vérifie ce soir.
Oui, même pas, Perrine. Je vais vous expliquer quand même que, vous savez, nous, ça fait 15 jours maintenant avec Marjorie Marcillac que nous sommes en Ukraine. Et je pense que c'est le premier soir où les frappes de drones Shahed, drones d'attaque, sont aussi intenses. Deux tiers du territoire est en rouge, hein, clairement. En rouge, ça veut dire qu'il y a des menaces de frappes de drones offensifs. Et là, ce soir, c'est la deuxième fois en quelques heures à peine, que le ciel de Kiev explose. Alors, il ne s'agit pas d'explosion de drones, il s'agit en fait du système de défense antiaérien qui neutralise ces drones-là, un peu comme il se passe en Israël avec les roquettes tirées depuis Gaza, on s'en souvient. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais ça arrive très régulièrement depuis maintenant, 2-3 heures, depuis la fin de l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et précisément, vous savez, tout à l'heure, et bien dans l'oblast de Donetsk, une infrastructure énergétique a été touchée. Ce matin, c'est dans l'oblast de Zaporijjia. Pareil, une infrastructure énergétique privant plusieurs centaines d'Ukrainiens d'électricité et d'eau. Alors forcément, difficile pour les Ukrainiens de croire Vladimir Poutine encore une fois, et le premier d'entre eux, Volodymyr Zelensky. On l'écoute.
La Russie soulève la question de la mobilisation. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière la question de la mobilisation, du renseignement et de la livraison d'armes, c'est l'affaiblissement de l'armée ukrainienne. Tout ça n'est pas une question de mobilisation, mais d'affaiblissement de l'armée ukrainienne par différents moyens. Poutine a vu que les États-Unis pouvaient suspendre leur aide, et c'est la raison pour laquelle il pose la question de ce qui peut fonctionner. Ça a déjà eu lieu, pourquoi ne pas le refaire? C'est de nouveau la question de l'affaiblissement de l'armée ukrainienne.
Volodymyr Zelensky a ajouté qu'il confirmait l'échange de prisonniers, 175, d'un côté et de l'autre. Il a également appelé les Ukrainiens à être prudents, car dans les prochains mois, il a dit que très probablement, l'armée russe allait pousser un petit peu plus, allait continuer son offensive sur les territoires ukrainiens.
Merci beaucoup, Igor Siri, avec Marjorie Marcillac.